Focus.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce nouveau podcast sur Radio Alzheimer. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tour du côté de la recherche, ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique, direction le Canada, où des scientifiques sont parvenus à renverser certains symptômes de la maladie d'Alzheimer sur des souris. Une avancée scientifique importante qui, si elle est démontrée sur l'homme, pourrait non seulement permettre de ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer, mais aussi de restaurer des capacités cognitives. Pour nous expliquer tout ça, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Yves Deconinck, professeur en psychiatrie et neurosciences à l'Université Laval et directeur du Centre de recherche Cerveau au Québec. Bonjour docteur Deconinck et merci d'être avec nous.
Bonjour Mallory.
Pour commencer, afin de bien comprendre votre découverte, c'est important de la remettre dans son contexte. Vous êtes avant tout un grand spécialiste de la douleur chronique et c'est votre travail dans ce domaine de recherche qui s'est révélé pertinent dans l'étude des maladies neurodégénératives. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui vous a amené à faire des liens entre vos travaux et la maladie d'Alzheimer et ce qui finalement a été le point de départ de votre découverte?
Oui, ben en fait, ce qui est intéressant dans cette découverte ou cette avenue qu'on explore pour la maladie d'Alzheimer, c'est assez original comme angle d'approche. Comme vous l'avez dit, moi, je suis un spécialiste de la douleur chronique. Je m'intéresse aux maladies neurodégénératives. Mais l'avancée vient de découvertes qu'on a commencé il y a maintenant une vingtaine d'années. Dans la douleur chronique et l'épilepsie, un des problèmes, c'est souvent un déficit de l'inhibition, c'est-à-dire le contrôle du signal. Vous savez que le problème dans la douleur chronique, c'est que des fois, un simple toucher peut déclencher de la douleur. Et c'est en fait parce que le signal qui part de votre main et qui va dans la moelle épinière et qui va être renvoyé au cerveau doit être contrôlé au niveau de la moelle épinière. Et un déficit d'inhibition fait que c'est des signaux anormaux qui se rendent jusqu'au cerveau. Et la petite sœur, si on veut, ou la grande sœur, si vous préférez, de la douleur chronique, c'est aussi l'épilepsie, où on a aussi encore, dans certains syndromes d'épilepsie, une insuffisance d'inhibition. Et là, dans l'épilepsie, c'est l'espèce de tempête d'activité. Les gens sont, quand ils ont une crise, il n'y a plus de contrôle de l'activité, et surtout quand il n'y a plus d'inhibition, ça fait une espèce de tempête. Et en fait, dans certains syndromes de la maladie d'Alzheimer, on observe justement que avant que la maladie soit vraiment déclarée et diagnostiquée par le médecin, et les gens ont parfois des périodes où il y a des petites crises d'épilepsie, dans ce qu'on appelle, en termes techniques, le prodrome de la maladie.
Et alors concrètement, cette perte d'inhibition, comment elle s'observe dans le cerveau? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse bien comprendre?
Oui. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que cette perte d'inhibition-là est importante. Imaginez-vous, en fait, l'inhibition, c'est important pour le contrôle de l'information dans le cerveau. Imaginez-vous que le cerveau, c'est, d'ailleurs, je le dis toujours, c'est l'organe le plus complexe de l'univers, c'est des millions de milliards de connexions. L'information se promène dans le cerveau. Il faut mettre de l'ordre là-dedans. Il faut qu'on ait un peu d'ordre là-dedans si on veut que l'information ait du sens. C'est un peu comme le réseau routier. Il y a des feux de circulation dans vos réseaux routiers, etc. Les feux de circulation sont importants pour mettre de l'ordre, si vous voulez, dans le circuit. Bien, c'est la même chose dans votre cerveau. Le signal électrique qui passe d'une cellule à l'autre et toute l'information dans votre cerveau, elle a besoin d'être contrôlée. Et quand on n'a plus ce contrôle, ça devient le fouillis, si vous voulez, ça devient le chaos, ça devient un peu la confusion. Donc, c'était l'indication, on se disait, cibler un déficit d'inhibition, peut-être que ça pourrait restaurer une qualité de traitement d'information, une qualité des fonctions cognitives.
Donc, vous avez réussi, en fait, grâce à vos recherches, à trouver comme un point commun entre les crises d'épilepsie et la maladie d'Alzheimer. Et quel est le mécanisme que vous et vos équipes, vous êtes parvenus à mettre en lumière?
Le point commun, c'est que on a trouvé qu'il y avait une perte d'une protéine très importante qui s'appelle le KCC2, qui est très importante pour réguler l'inhibition, pour maintenir la qualité de l'inhibition. Et donc, on avait trouvé ça dans la douleur chronique et puis dans l'épilepsie, on le retrouve aussi. On s'est dit, dans les modèles expérimentaux de la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'on voit aussi cette perte de KCC2? Il y avait déjà des données qui montrait que dans des examens de cerveau post-mortem, les gens pouvaient voir une diminution de ce KCC2. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est un lien direct. Dans nos modèles expérimentaux d'épilepsie, d'Alzheimer, on a vu cette perte de KCC2. Donc, je suggère que la perte d'inhibition pourrait être un mécanisme important pour la maladie. dans la maladie d'Alzheimer, il y a la dégénérescence et il y a la dysfonction cognitive. Les deux vont un peu de pair et la perte d'inhibition affecte les deux. Quand il n'y a pas assez d'inhibition, il y a un trop plein d'activité. Et quand il y a trop d'activité, souvent ça amène à la mort neuronale. Et en plus, les fonctions du circuit, c'est un peu confus parce qu'on n'a pas un bon contrôle inhibiteur. Donc, on s'est dit, en utilisant un médicament qui va venir restaurer cette inhibition-là, peut-être qu'on fait d'une pierre deux coups, on va peut-être retarder la dégénérescence et surtout, on va améliorer les fonctions cognitives. Et c'est ce qu'on a observé. En fait, comme on avait fait ces découvertes dans la douleur chronique il y a une vingtaine d'années, mes anciens étudiants étaient embarqués à essayer de développer un médicament qui pouvait restaurer la fonction de cette fameuse protéine qui était déficiente, le KCC2. Donc, on avait déjà sous la main un outil pour essayer de restaurer l'inhibition et voir si ça pouvait renverser les déficits cognitifs dans la maladie. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, si on a fait des traitements, on a pu, d'une part, retarder le déclin cognitif de nos souris, mais aussi, une fois que le déclin avait commencé, en donnant le médicament, ça renversait, ça réaméliorait la condition, ce qui est aussi très prometteur, parce que souvent dans le problème qu'on a avec la maladie d'Alzheimer, c'est que ben, quand le déclin commence, hein, on est déjà rendu très loin et c'est difficile de pouvoir renverser la vapeur. Souvent, les quelques rares médicaments qui existent pour l'instant ne font que maintenir un peu les fonctions cognitives. Mais on n'a pas beaucoup là, d'effets restaurateurs. On n'a pas la prétention d'avoir trouvé la cause de la maladie. Ça, c'est important de le dire. Les gens qui ont travaillé sur la maladie d'Alzheimer, les histoires des protéines, la protéine A-bêta, la protéine Tau, qui sont dysfonctionnelles. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que ces mutations induisent la perte du KCC2, donc le déficit de l'inhibition. Mais ce qui est important pour nous, c'est que même si c'est pas la cause de la maladie qu'on a identifiée, la maladie s'exprime par cette perte d'inhibition. Donc, on s'attaque quand même à un intermédiaire très important, si on veut, dans la maladie, qui peut être celui qui est responsable de la dégénérescence en bout de ligne. Donc, il y a quand même espoir que cette approche-là soit assez prometteuse pour vraiment prolonger la santé chez les gens. Il faut voir que c'est un angle d'attaque qui est quand même assez différent de celui que les gens ont voulu suivre pour l'instant, parce que les gens sont attaqués directement aux protéines qui étaient mutées dans la maladie, essayer de voir si on peut nettoyer, les enlever, etc. Mais nous, on s'est dit, ben d'accord, mais si ça a entraîné un déficit d'inhibition, ben il faut s'attaquer à ce problème-là, plutôt que seulement essayer de s'attaquer à la source.
Donc les essais sur les souris, en tout cas, ils sont prometteurs et semblent indiquer en fait qu'en prévenant la perte de KCC2, on pourrait non pas guérir de la maladie d'Alzheimer, mais on pourrait retarder la dégénérescence, voire renverser les déficits cognitifs. Est-ce que cette perte de KCC2 dans le cerveau pourrait constituer un biomarqueur? Est-ce que déceler cette perte pourrait jouer un rôle dans un diagnostic plus précoce de la maladie?
Oui, c'est très important ce que vous dites parce que nous, on a identifié cette perte de KCC2 dans certains syndromes de la maladie d'Alzheimer. Il faut s'entendre que ça ne veut pas dire que c'est le mécanisme pour toutes les formes de la maladie. Hein. Toutes ces maladies du cerveau, neurologique, mental, on les libelle souvent, mais il y a toutes sortes de variations dans ces maladies-là. Donc, ça devient important aussi pour les chercheurs et pour les médecins de bien identifier la cause de telle ou telle maladie. Hein. Donc, si nous, on a identifié cette perte de KCC2, on se dit, ben, si on pouvait détecter cette perte, ça permettrait aux médecins de dire, bon, vous avez cette forme de la maladie, donc maintenant, tel médicament marcherait bien. Et on a, pour l'instant, des résultats préliminaires dans une autre maladie neurodégénérative où on a vu une variation du KCC2 dans le sang. En fait, si c'est perdu dans le cerveau, on s'attend des fois à avoir une augmentation dans le sang et on l'a observé. Donc, c'est un indicateur que peut-être qu'en effet, faire des mesures de KCC2 dans le sang, ça pourrait devenir un biomarqueur intéressant de cette forme de la maladie. Il faut toujours faire attention quand on parle de biomarqueur. Un seul biomarqueur, pas nécessairement suffisant. Il faut souvent le pairer avec d'autres. Quand vous allez chez votre médecin, il vous fait une prise de sang pour vérifier votre condition. Est-ce que vous avez une vulnérabilité à développer certains troubles métaboliques ou vous avez des problèmes cardiovasculaires potentiellement, etc. Ben, il regarde plusieurs marqueurs ensemble et dit, ah oui, ben là, quand on regarde cette constellation, là, il y a une signature qui dit qu'il y a peut-être un problème. C'est la même chose qu'on veut faire avec la maladie d'Alzheimer, mais certainement, ce marqueur, le KCC2, on pense que ça pourrait en être un très intéressant.
Et donc, la prochaine étape, ce serait de réaliser des tests sur les humains et de tenter d'inverser le déclin cognitif. Quelles sont les perspectives d'avenir et les prochaines étapes pour vos recherches?
Ouais, la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on a une certaine longueur d'avance. Parce que souvent, quand on fait des recherches et qu'on trouve un déficit associé à une maladie, on arrive à mettre le doigt sur un mécanisme. Le compte à rebours commence, si vous voulez. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé cette cible, on dit il faut développer des médicaments pour pouvoir pallier à ce problème. Mais nous, on a une longueur d'avance parce que ça fait déjà très longtemps qu'on travaille là-dessus dans le contexte de la douleur chronique. Et on avait déjà développé des médicaments qui ciblent le KCC2. Et c'est en cours. Maintenant, il y a des biotech qui ont repris ces médicaments puis qui vont essayer de développer ça pour la maladie. Bon, c'est un long parcours. En général, entre le moment où on a identifié une cible et un médicament, il faut calculer facilement 15 ou 20 ans. Mais comme nous, on a déjà des molécules candidates, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a pu montrer que ça pouvait être efficace chez la souris. Ben, on peut s'attendre à ce que seulement d'ici 4-5 ans, on ait vraiment quelque chose de testable bien chez l'humain et de voir vraiment si ça peut être efficace. Il y a peut-être une chose que j'aimerais rajouter. Ça peut paraître paradoxal ce que je raconte parce que on sait aussi que les somnifères, par exemple, ce qu'on appelle la grande classe des benzodiazépines, qui sont les somnifères par excellence, fonctionnent aussi en augmentant l'inhibition, mais on sait qu'ils sont souvent mauvais dans la maladie d'Alzheimer. Et en fait, ce qu'il faut garder en tête, hein, c'est que il faut toujours viser un équilibre. Et le problème quand on prend des somnifères, c'est qu'on inhibe trop. Et quand on inhibe trop, ben là, on est dans l'autre sens. Pensez au trafic, hein, en analogie avec le trafic tout à l'heure, il faut savoir bien contrôler le trafic pour que l'information passe bien. Mais si on arrêtait trop le trafic, ben là, il n'y aurait plus assez d'informations et là, ben, on n'atteindrait pas notre objectif là, d'améliorer le système.
Donc, de trouver l'équilibre.
Ouais. Comme toujours, hein, comme toujours dans les maladies neurologiques et mentales, hein, le cerveau, c'est cet immense organe ultra complexe. Il faut toujours viser un équilibre et le contrôle de l'activité. Trop de contrôle, ça peut amener à une malfonction de notre cerveau. Pas assez de contrôle, ça amène aussi à une activité anormale. On n'est plus capable vraiment de faire sens.
Eh bien, merci à vous, en tout cas, d'essayer de trouver cet équilibre grâce à vos recherches.
Absolument, c'est ce qu'on espère. Et espérons que ça va aider beaucoup de gens. On sait tellement comme la maladie d'Alzheimer est terrible pour les gens et surtout aussi pour les proches aidants, les gens qui aident les gens qui ont la maladie. Donc, tout ce qui peut aider pour améliorer la condition de ces gens-là, c'est notre espoir qu'on y arrive.
C'est très important. Eh bien, merci beaucoup, docteur de Coninck, pour votre temps et pour vos explications. Et on va suivre l'avancée de vos travaux de très très près.
Merci beaucoup pour votre interview.
Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que cet épisode vous a intéressé. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez écouter et réécouter toutes nos émissions sur le site internet et l'application podcast de Radio France Alzheimer. Et je vous dis à très bientôt.
C'était Focus, le podcast qui s'intéresse aux initiatives, à la recherche et au quotidien autour de la maladie d'Alzheimer.